Europe 1,
9h-11h,
François Claus.
Le tour de la question, j'allais dire deuxième mi-temps, j'étais encore dans le débat Paris Saint-Germain de la première heure. Deuxième heure du tour de la question et on va partir loin. Hein. Paris, c'était tout près, Porte d'Auteuil. Là, on va prendre le transsibérien ou prendre une nuit d'avion pour aller vers ce Japon qui va vivre une page d'histoire. Pour la première fois, un empereur abdique. Et nous allons le vivre quasiment en direct, car la cérémonie va commencer dans quelques minutes. Et nous serons tout à l'heure en direct de Tokyo avec l'un des grands spécialistes français du Japon, Monsieur Jean-Marie Buissou. Au-delà de cette cérémonie et de cette totalement fascinante histoire des dynasties japonaises, c'est l'occasion pour nous d'ouvrir la page de ce pays qui nous intrigue, qui nous fascine, qu'on ne connaît pas, et dont la culture, pourtant, du cinéma à la littérature, en passant par la gastronomie et les mangas, irradie aujourd'hui le monde entier, le Japon, mystérieux, fascinant, intrigant. C'est ce que nous allons essayer de dérouler tout au long de cette heure dont fait le tour de la question. Et je suis, Julie, très heureux d'accueillir dans ce studio Madame Guilbourg de Lamotte. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse, maître de conférences en sciences politiques à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous connaissez le Japon. On ne mesure pas ce que les Japonais sont en train de vivre à l'instant où nous parlons. Dans quelques minutes, une cérémonie d'abdication d'un empereur, c'est colossal, c'est du jamais vu, et le Japon retient son souffle.
Absolument, c'est un moment extrêmement important pour les Japonais, c'est la première fois qu'ils le vivent, c'est tout à fait inattendu, enfin, c'est-à-dire ça se prépare depuis 3 ans, mais auparavant c'était du jamais vu pour ainsi dire, et là les Japonais sont complètement associés à cet événement extraordinaire, donc ils le regardent avec plaisir aussi, c'est presque comme un mariage si vous voulez cette abdication.
Alors ça révèle ce lien extrêmement fort qui unit l'empereur à son peuple, qui va au-delà du lien qui unit aujourd'hui une monarchie à l'européenne, j'allais dire, à son peuple. Pour les Japonais, même si nous, en Europe, on ne le voit pas souvent, cet empereur est un véritable garant, une sécurité, un protecteur, comment vous le qualifieriez ?
Alors, il est censé être le symbole de la nation, et de fait, c'est tout à fait ce qu'il incarne pour la nation, c'est-à-dire il est parvenu au fil du temps à vraiment apparaître comme extrêmement proche de son peuple, et à gagner une légitimité et une charismatique qui va bien au-delà, disons, de celle qu'il pourrait devoir à la simple naissance et à son statut, donc il a vraiment tissé des liens avec son peuple. Alors, je pense qu'il y a une relation d'affection et qui n'est pas très éloignée malgré tout de celle qu'éprouvent les Anglais pour la reine d'Angleterre. Il y a énormément de respect, un vrai sentiment de proximité, parce qu'il y a eu beaucoup d'empathie de la part de l'empereur qui s'est exprimé, et puis de sa femme qui s'est exprimée à l'occasion notamment des grandes catastrophes naturelles qui émaillent sans arrêt l'actualité japonaise.
Personne n'a oublié cette image de mars 2011 au moment du tsunami à Fukushima, quand il va l'empereur avec sa femme et qu'il s'agenouille devant les victimes et devant les survivants aussi, dans un geste qui avait fasciné le monde entier.
Exactement, c'est ça. Il s'est mis accroupi avec les rescapés dans ce gymnase où ils se trouvaient. Et donc, il a été coutumier de ce genre de geste. On l'a vu avec des handicapés, avec des enfants. Enfin, ils ont eu l'habitude de se mêler vraiment à la population qui a été extrêmement sensible. Et cet empereur, eh bien, il a vraiment rassemblé par-delà les clivages politiques, par-delà, voilà, il a vraiment rempli, il s'est attaché à remplir pleinement ce rôle de symbole de la nation.
Et ce lien très singulier, il repose, il faut le rappeler, Madame de Lamotte, sur une histoire très très longue, une histoire, on va dire, allez, mi-sacrée, mi-historique. C'est très particulier, il faut le rappeler, c'est comme si nous aujourd'hui, ou comme si les Grecs étaient en train aujourd'hui de célébrer le descendant de Zeus, et tout le monde Et tout le monde y croit au Japon.
Alors, il y a une rupture quand même avec la fin de la guerre. Hein. C'est-à-dire que l'empereur Hirohito, en 1945, a renoncé à son statut divin. Il a pris la parole à la radio pour expliquer qu'il était un simple humain, être humain.
Faut rappeler qu'on est dans le contexte de l'après-guerre et que ça a été imposé dans la nouvelle constitution par les Américains, mais que dans l'inconscient collectif japonais, il est bel et bien le descendant de la déesse de la lumière.
C'est ça, il a en effet la tradition, disons, la dynastie impériale a des origines légendaires qui remontent à 2500 ans à peu près, donc qu'on parvient à tracer. Mais c'est vrai que les Japonais n'ont plus le sentiment d'avoir devant eux un dieu en la personne de l'empereur.
Ils n'ont plus un dieu, mais ils ont une personne qu'ils vénèrent quasiment comme un dieu.
Oui, et puis surtout, plus que ça, si vous voulez, je crois qu'il y a un attachement qui va par-delà la forme un peu mystique, un peu précisément ses origines légendaires, on y est attaché, mais ça c'est presque du folklore. La personne de l'empereur, vraiment, même en tant qu'être humain, que simple être humain et que souverain, eh bien, elle génère énormément de respect, d'admiration et un vrai attachement.
Mais les Japonais ne se posent même pas finalement la question historique, c'est ça qui est frappant dans un pays très... très laïque, dans un, on a un rapport, une forme de sacré. Enfin, nous, en tout cas européens, c'est quelque chose qui nous est un petit peu étranger.
Il y a tout un cérémonial autour de l'empereur, que ce soit dans cette abdication, on le voit quand il arrive sur le trône, et puis dans toutes sortes de gestes, de moments. Effectivement, c'est très religieux. En fait, il y a toutes sortes de rituels shintoïstes qui entourent la monarchie.
Vous pouvez nous en donner quelques-uns. Enfin, il y a d'abord les matériaux utilisés, très précieux. Il y a la gestuelle. Il y a l'utilisation d'armes, du sabre, vous pouvez nous le décrire un petit peu.
Il y a tout un rituel effectivement qui associe les prêtres, tout le costume, tout a une signification, tout est effectivement marqué par un héritage historique. Et puis l'empereur est censé être malgré tout encore aujourd'hui, alors même qu'il y a théoriquement dans la constitution séparation de la religion et de l'État, il est quand même toujours empreint de cette religion jusqu'à 1945. Disons, il était au sommet la hiérarchie, disons, shintoïste, et une hiérarchie des temples, des sanctuaires, pardon, avait été établie. Et donc, cette histoire, en fait, continue de marquer la monarchie et ses rituels.
Alors, on va voir ce que cet empereur a incarné. C'était, parce que c'est un changement d'heure, j'allais dire un changement d'heure. Nous, on débat en Europe sur le changement d'heure. Au Japon, on débat sur le changement d'heure. Changement d'heure, on passe de l'accomplissement de la paix à la vénérable harmonie. C'est magnifique, cette formulation. On va voir ce que ça signifie. On va voir comment un empereur vit finalement dans son palais. Ce qu'il peut incarner de nouveau, le nouvel empereur qui arrive. C'est demain la cérémonie. Demain et dans les prochains jours.
Aujourd'hui l'abdique, demain c'est le nouvel empereur.
C'est l'abdication et le nouvel empereur. Restez avec nous. On est au Japon, Julie, encore pendant 3 quarts d'heure pratiquement.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro. Gagnez du temps en affranchissant en quelques clics jusqu'à 25 colis en une seule fois.
9h-11h, François Claus sur Europe 1.
Le Japon s'apprête à tourner une page historique avec l'abdication de son souverain actuel, Akihito. C'est en direct en ce moment à Tokyo. Ça se déroule en ce moment, son abdication.
Et on aura Jean-Marie Buissou, un grand spécialiste, qui est actuellement au Japon, qui sera avec nous en direct.
Donc il abdique aujourd'hui au profit de son fils aîné, le prince héritier Naruhito. Est-ce qu'on prononce comme ça? Je ne suis pas sûre.
Akihito Naruhito.
Oui, parce que pendant la pause, on était en train de parler avec Madame de Havotte. Je lui parle un mot japonais, elle ne comprenait absolument pas ce que je voulais dire. On va y venir d'ailleurs, mais il faut revenir quand même sur cette abdication qui a été un véritable coup de tonnerre. Il a fallu une loi spéciale et le cérémoniel qui se déroule en ce moment même, il a fallu le créer de toutes pièces, car l'empereur jusque-là divin ne pouvait pas abdiquer, lui en tant que homme, finalement, il a accepté les raisons qu'il a données au peuple japonais et que le peuple japonais a très bien compris, visiblement.
Très bien compris, immédiatement. Effectivement, il a expliqué qu'il était trop fatigué pour continuer. Alors, il y a 3 ans, j'étais au Japon quand l'empereur a annoncé qu'il souhaitait abdiquer. Et en fait, très rapidement, l'extrait n'est pas du tout passé en boucle. C'est-à-dire, ça a été passé une fois et après, on ne l'a plus revu du tout. Et ensuite, il a fallu, une fois que ça a été digéré un petit peu, là, officiellement, disons, le gouvernement a pris acte du fait que l'empereur souhaitait abdiquer. et donc ils avaient décidé certainement un petit peu comment prendre la chose. Mais l'empereur a pris un peu le gouvernement de court parce que peut-être qu'il y avait eu des premières évocations de la possibilité qu'il avait. Il avait senti des réticences. Enfin, toujours est-il qu'il en a appelé directement à son peuple. Il s'est vraiment exprimé directement à la télé pour dire, voilà, je suis trop fatigué, je ne vais pas pouvoir continuer.
Tu ne peux plus me donner corps et âme, a-t-on traduit en partie cette déclaration, qui est effectivement très, très émouvante. Et on évoquait avec Julie cela, en se disant que peut-être que dans certaines monarchies européennes,
la reine d'Angleterre pourrait
prendre cette décision.
Ce pauvre Charles souhaiterait certainement le faire.
Quelle grande noblesse.
C'est ça. Et c'est vrai que la population a immédiatement répondu avec la même humanité que lui avait montré à son égard. Et en effet, c'est montré à quel point à la fois lui-même est effectivement un homme qui est confronté aux mêmes difficultés que tout le monde et donc qui a droit à la même clémence que tout le monde et donc à prendre sa retraite à un moment donné. Et puis en même temps, c'est montré que finalement, cette fonction qu'il exerce, eh bien, c'est une fonction, c'est un emploi qui appelle énormément de travail, d'engagement. Et que donc, si vous voulez, c'est donné en même temps un statut véritablement institutionnel à sa fonction. C'est-à-dire précisément, c'est montré qu'en effet, elle a rien de divin, elle est très prosaïque, elle demande beaucoup d'efforts, cette fonction.
Alors j'évoquais juste avant la pause que changement d'empereur dit changement d'air, changement de calendrier également.
C'est ça, changement de calendrier. Alors donc là, on passe maintenant à l'ère Léoa et à son an 1, mais seulement les mois et les jours ne changent pas, eux. Donc on démarre en fait au 1er mai de l'ère Léoa. Numéro 1. Mais après, les années vont être décalées. C'est assez compliqué, en fait, hein, en effet, cette histoire.
C'est clair, pour nous, c'est assez compliqué, mais chaque ère est censée représenter une période. Donc, on sort de l'ère de l'accomplissement de la paix, et on l'a, compte tenu de ce qui s'est passé avec le Japon durant la Seconde Guerre mondiale, on comprend. On entre dans la vénérable harmonie, ou harmonie ordonnée. Enfin, il y a plusieurs traduction, vous diriez quoi ?
Non, c'est pas ordonné, en effet. Ça, c'est une erreur d'interprétation. Enfin, c'est une interprétation un peu rapide du premier caractère. C'est plutôt, en fait, c'est l'idée d'harmonie parce que de belle harmonie, on a traduit, parce qu'en effet, il y a l'idée aussi de fraîcheur, disons.
Qui définit ce terme ?
Mais en fait, le terme, c'est une association de caractères chinois qui ont été cherchés et qu'on a trouvé dans un recueil d'anthologie classique. Le premier recueil d'anthologie japonaise. Donc, les Japonais sont très fiers de ce texte ancien. Et donc, on a pris deux caractères dans une phrase qu'on a associée. Vous voyez, c'est une association d'idées, en fait, ces caractères. C'est pour ça que c'est compliqué à traduire. En fait, c'est presque des connotations. Vous voyez, chacun est chargé.
Mais c'est l'empereur lui-même qui décide qu'on nomme cette ère de cette manière-là.
Non, pas du tout. C'est une commission qui est réunie d'experts. Et puis ensuite, c'est annoncé par le porte-parole du gouvernement. Et il brandit un panneau et l'empereur prend acte, il est informé. Comme de tout ce qui se passe dans la vie politique. D'ailleurs, l'empereur, il est très spectateur, hein, il n'est pas du tout, on ne lui demande pas son avis.
On ne lui demande pas son avis, mais il est très spectateur et très, très attentif. La dénomination, la terminologie de Césaire, elle répond quand même à une préoccupation d'époque. On le voit très bien. La paix post-Deuxième Guerre mondiale avec le drame qu'a vécu le Japon. Et quand on nous parle aujourd'hui d'harmonie dans le monde de la mondialisation, des réseaux sociaux, de la sururbanisation, on sent qu'on veut y donner un sens pas seulement poétique.
Oui, absolument. On donne par le terme, on exprime une vision de ce qu'on attend pour les 30 ans à venir. Donc en l'occurrence, la période précédente, donc ASC, elle a démarré en 90, hein, également à la fin de la guerre froide, en fait. Donc c'est en effet une ère nouvelle qui s'ouvrait. Et là, eh bien, le Japon est face à toutes sortes de défis. En effet, certainement qu'il attend un souffle nouveau. Voilà, d'où l'idée de ce terme, et en même temps de la continuité.
Alors c'est ces défis qu'on va justement évoquer avec vous, parce qu'au-delà de la figure de l'empereur et de cette cérémonie d'abdication, c'est évidemment l'histoire du Japon, sa place dans le monde aujourd'hui, sa culture qui nous intéresse. Un petit mot quand même sur le quotidien d'un empereur. Il était le premier empereur à avoir élevé ses enfants. Parce qu'avant, l'empereur, celui qui devenait empereur, il était aux mains de précepteurs, finalement.
C'est ça, et c'est son épouse, Michiko, l'impératrice, qui a demandé à élever elle-même ses enfants. Donc ça, c'est une évolution qu'on voit aussi dans la monarchie anglaise. Effectivement, elle a refusé, que c'est elle qui est d'origine roturière. Hein, ils se sont rencontrés à Kikito et elle sur un court de tennis. Elle est d'origine roturière, et donc elle a voulu élever ses enfants elle-même.
Ça veut dire qu'on va avoir le premier empereur élevé par son papa.
par
et
sa maman.
Hein,
peut-être plutôt par
bien
la
sûr.
Maman, malgré tout.
Bien, oui, vous avez bien fait de me corriger. Son papa et sa maman.
C'est ça.
Et donc, cela peut amener peut-être des changements.
Alors, ça peut amener des changements. Surtout, c'est un empereur qui, malgré tout, ce nouvel empereur, il a fait ses études à Oxford, son épouse a fait ses études à Harvard. Donc, ils sont ce choix pour pour son éducation à lui, c'est marqué clairement la volonté que le prince impérial soit élevé de manière internationale, ouverte sur le monde.
Il a fait une thèse sur le commerce sur la Tamise au XVIIIe siècle, oui. Lorsqu'il était. Mais on y voit une image sur. Le Japon veut participer d'une certaine manière au commerce international aujourd'hui.
Oui, sans doute. Et puis c'était aussi une manière d'acquérir une culture classique, certainement, mais surtout de faire des études à Oxford. Je crois que vraiment le fond de l'affaire est là. Bien parler anglais, donc il est anglophone. Son épouse, elle est devenue diplomate, donc Masako, la future impératrice. Elle a été diplomate de carrière pendant un temps avant d'épouser Naruhito. Mais effectivement, dans quelle mesure elle est-ce qu'elle est-ce qu'il peut y avoir un renouveau pour autant de cette monarchie impériale avec ces deux personnages plus internationaux?
On s'interroge notamment sur l'impératrice. L'un des éléments de modernité serait peut-être une présence un peu plus grande qui collerait d'ailleurs à l'évolution de la société japonaise où enfin les femmes commencent à travailler et à
Absolument.
Exister.
Absolument. Alors,
tant
sur un plan personnel, c'est ce qu'ils souhaiteraient l'un comme l'autre. Est-ce que la maison impériale, c'est-à-dire l'administration qui entoure et qui décide de beaucoup de choses, qui contraint la vie de l'empereur et de sa famille, est-ce qu'elle va être disposée à admettre une certaine évolution? Ce serait souhaitable, parce qu'effectivement, la princesse Masako a souffert quand même d'une forme de dépression depuis 15 ans.
Là, vous parlez de la femme l'empereur
qui vient impératrice.
On s'est dit que c'était peut-être une des raisons non, aussi.
La future impératrice. Hein.
Ah, la future impératrice,
la maman, c'était pareil. Elle a commencé par être assez... Mais après, elle a très bien surmonté les choses, la maman, hein, Michiko.
Alors, vous évoquiez très rapidement cette maison impériale. Alors, moi, je disais Kunaicho, mais ça n'a rien à voir.
Non, Kunaicho, c'est la maison impériale. Vous me disiez Michiko, qui est le nom de l'impératrice.
Kunaicho, c'est le garant du temple, c'est quoi? C'est un millier Kunaicho, de personnes environ
C'est l'administration qui s'occupe de l'empereur et qui décide finalement des discours, des déplacements de l'empereur et puis de sa famille, donc qui les envoie à droite à gauche, dans des fonctions de représentation qui restent très... des échanges de très, très... de politesse, si vous voulez. Hein.
Les imagine cordiaux, mais qui peuvent être fermes aussi.
Pas l'empereur. Non, c'est-à-dire on l'envoie pas du tout s'il y a un problème avec un pays. Hein. Vous voyez, on l'envoie avec des pays avec lesquels les choses se passent bien, avec lesquels on veut marquer. C'est presque comme faire des cadeaux. Si vous, hein. Mais il n'y a pas tellement de contenu, il n'y a pas de discussion politique dans ces visites.
Je vous avais dit que c'était un voyage fascinant, passionnant autour de cette application. On va voir ce que ça veut dire du Japon d'aujourd'hui aussi, dans un instant, car on fait le tour de la question, Julie.
9h-11h, François Claus sur Europe 1.
On se retrouve après Patrick Bruel, ça vous dit?
Écoutez,
eu le temps.
Moi j'ai envie de rester au Japon, mais allez.
On y revient tout de suite
allez,
après.
Allez, on fait une courte pause.
Ça c'est du vrai Patrick Bruel. Hein.
Pas
musique
eu le temps.
Et paroles, pas eu le temps, exactement.
Nous c'est bien parce qu'on a le temps de s'attarder sur le Japon un petit peu ce matin. Sur
alors que l'empereur vient d'abdiquer, ou parce qu'on a eu les images.
La cérémonie est là et on aura un direct de Tokyo dans quelques instants. C'est une cérémonie très, très sobre.
Très courte, parce qu'apparemment c'est terminé là.
Absolument, mais enfin ça va être à plusieurs temps, parce qu'après le nouvel empereur va prendre ses nouveaux habits, va être présenté à son peuple et c'est une affaire qui durera jusqu'au mois d'octobre. En même temps, cette histoire, elle dit beaucoup du Japon d'aujourd'hui. Première chose qui m'a frappé, Guibourg de la Motte, je rappelle que vous êtes chercheuse, maître de conférence à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, c'est que cette abdication a amené un congé exceptionnel au Japon de 10 jours et on entend partout le désarroi des Japonais, 10 jours de vacances, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a même une forme de dépression latente dans la société autour de ces 10 jours de congé. Inutile de vous dire que pour nous, alors c'est quelque chose qui nous échappe totalement. Racontez-nous ce rapport au travail et au congé des Japonais.
C'est vrai que le travail fait partie complètement de la vie et donc on n'a pas ce sentiment d'être libéré quand on part en vacances. Mais bon, les Japonais sont quand même contents comme tout le monde quand ils sont en vacances. Là, ce qui se passe, c'est quand même sont des vacances imposées quelque part. Donc c'est plutôt comme une succession de jours fériés où tout est fermé, où personne ne travaille, où c'est le blanc dans le pays. Donc personne ne sait très bien si les distributeurs vont être approvisionnés, quels restaurants vont être ouverts. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu, c'est ça qui perturbe.
Et qu'ils sont un petit peu déstabilisés. On parlait de ce que le couple impérial peut renvoyer de la société, le rôle de l'impératrice. L'une des données aujourd'hui fondamentales du Japon, c'est l'entrée des femmes j'allais dire, enfin, avec un réflexe militant occidental, enfin, dans le champ social, on a aujourd'hui plus de femmes qui travaillent au Japon que de femmes qui restent au foyer, ce qui est une véritable révolution si on regarde l'histoire du Japon.
Oui, enfin disons que là, il faut se méfier un petit peu parce que si vous voulez, on a un biais qui est de regarder la période contemporaine en fait. Donc en fait, avant cette période contemporaine, les femmes travaillaient comme chez nous. Hein. C'était parfaitement normal de travailler dans les champs et puis même dans les usines, elles c'était toutes les petites mains, les femmes. Mais simplement, quand la société s'est embourgeoisée dans les années 50-60, c'est devenu normal. Le modèle qui s'est imposé, donc on estime, qu'on imagine avoir toujours duré, c'était que l'homme qui pouvait subvenir aux besoins de la famille était vraiment le chef de famille digne de ce nom et donc que la femme ne devait pas travailler, elle devait s'occuper des enfants. Vous voyez, donc c'est un modèle qui est somme toute assez récent. Et donc il a fallu en effet des années de récession, il a fallu des années de déclin démographique pour qu'on se rende compte que d'une part, beaucoup de femmes voulaient travailler, donc il fallait assurer une garde d'enfants, que d'autre part, beaucoup de foyers n'avaient plus suffisamment de moyens et que donc deux salaires étaient bienvenus et que donc il fallait aussi, dans un contexte de déclin démographique, trouver plus de main-d'œuvre. Et donc cette réserve de main-d'œuvre, on a commencé par aller chercher vers les femmes. Donc vous voyez, il y a toute cette logique économique derrière qui explique cette évolution. Et effectivement, il y a une vraie aspiration aussi de beaucoup de femmes à travailler.
Et dans cette logique économique, puisqu'on entre dans l'ère de la vénérable harmonie, il faut bien dire que le Japon a un problème démographique, un problème d'endettement et que ça va être l'un des grands défis de cette ère de l'harmonie qui s'ouvre avec le nouvel empereur.
Absolument. L'endettement est abyssal, hein, de 150% du PIB. Alors effectivement, comme il est contracté auprès de... l'endettement se fait auprès de créanciers qui sont japonais, c'est moins problématique quand on doit s'endetter, se tourner vers les marchés internationaux. Il n'y a pas ce problème de la notation par des agences et donc de la sanction par des taux d'intérêt qui montent. Néanmoins, ça ne va pas durer indéfiniment puisque l'épargne se tarit, parce que de fait, le déclin de la démographie amène une épargne moindre.
Oui. Très clair, hein, sur le chiffre, le chiffre aujourd'hui, c'est 1,44 enfants par femme. On rappelle qu'il faut 2 enfants par femme pour renouveler la population.
2,1, ouais,
c'est 2,1 absolument. C'est un taux très très faible et c'est un vrai problème.
Ah, c'est un vrai problème. Ils perdent des milliers d'habitants par an en fait. Ben, on l'explique par le fait que, précisément, c'est extrêmement compliqué de conjuguer travail et famille en raison des distances, de l'éloignement du lieu de travail, de l'habitation, en raison de... Il y a aussi on ne fait pas d'enfants hors mariage. Donc, si vous voulez, plus les femmes se marient tard, moins elles font d'enfants. Et plus elles veulent préserver leur autonomie, plus elles se marient tard. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on en arrive à ce débat sur comment conjuguer travail et famille et que fait-on. Mais c'est tellement... Le modèle est tellement un modèle de travail et si vous voulez, une femme qui finit à 18h pour s'occuper des enfants ne peut pas avoir la même fonction qu'un homme qui va rester jusqu'à 23h.
Oui, et si elle veut avoir la même, ça pose un problème. Voilà. Dernière question sur le Japon d'aujourd'hui, avant de revenir plutôt aussi à la culture japonaise au sens large du terme. On a le sentiment que dans ce monde mondialisé, il y a à la fois le Japon qui envahit le monde, parlons de Samsung, parlons de Nissan, des voitures, et en même temps un besoin autour de l'empereur, notamment de se protéger et de revenir sur l'archipel.
Samsung, c'est coréen.
Pardon.
Disons Sony.
Voilà, Sony. C'est Sony, voulais-je dire. Pardon pour cet énorme lapsus.
On vous a
Mais
compris.
Les produits japonais qui, aujourd'hui, fascinent le monde entier, en même temps, on a besoin de se replier.
Oui, c'est ça, c'est vrai, vous avez raison. C'est une société qui est assez paradoxale pour ça, parce qu'elle est effectivement à la fois extrêmement internationale, prodigieusement internationalisée, et en même temps, non, pas du tout. En même temps, effectivement, il y a finalement peu de Japonais expatriés, finalement peu d'étudiants internationaux, finalement peu de mariages mixtes. C'est une société qui, effectivement, est bien chez elle. Il y a donc une très petite ouverture à la main-d'œuvre immigrée maintenant, qui se fait dans la mesure qu'impose les besoins économiques et puis la capacité d'intégration du pays. Et donc, effectivement, il y a une forme d'insularité. C'est vrai, des Japonais, mais je crois que c'est pour ça qu'on les aime, somme toute.
Voilà ce qu'on pouvait dire de cette ère de la vénérable harmonie qui s'ouvre avec le nouvel empereur. Courte pause, et puis le Japon, c'est aussi une culture extraordinaire. On y revient dans un instant.
Alors que l'empereur du Japon abdique aujourd'hui, on peut se demander où va le pays ? En quoi nous inspire-t-il ce Japon ? François Claus et son invité.
Et notre invitée, qui est Madame Guilbourg de la Motte, qui est chercheuse, maître de conférences en sciences politiques, qui est spécialiste du Japon. On évoquait les défis économiques. Il y a dans notre prisme, intérêt, fascination pour le Japon, cette culture japonaise qui, au-delà de l'économie, est aujourd'hui dans le monde. Là, je regardais les chiffres de bandes dessinées en France. Il faut savoir que c'est un des secteurs les plus vivaces de l'édition. On vend quasiment 18 millions de mangas en France. Chaque année, cette culture du manga est aujourd'hui une culture mondiale, accompagnée par les films d'animation également japonais.
Absolument, là, ça c'est un grand succès de la culture populaire et la culture contemporaine japonaise. La France en particulier, on est effectivement très très friande. Hein. On est le deuxième marché du manga au monde, c'est-à-dire après le marché japonais. Donc c'est absolument phénoménal.
C'est phénoménal. Il y a également cette fascination pour la littérature japonaise. Quand vous parlez des gens qui lisent des livres, Murakama est aujourd'hui un auteur absolument culte en France. On peut penser aussi aux Belles Endormies, qui a été un roman qui a beaucoup marqué.
Karawata.
Comment vous expliquez, nous qui ne connaissons pas ce monde, on est fascinés par lui, c'est un rapport comme ça de fascination qui nous pousse vers la culture japonaise.
Je crois en particulier que c'est quelque chose d'assez français. Ça. Les Français aiment énormément la culture japonaise, ça remonte au 19e siècle. Alors avant c'était un phénomène élitiste, hein, évidemment, c'était les impressionnistes, Monet, Debussy qui ont été fascinés par le Japon.
C'est eux qui ont été les prescripteurs, les premiers.
Ils ont été certainement les premiers, oui. Il y a eu des personnages comme Albert Kahn aussi, on peut en citer énormément. Hein. Puis après, dans le domaine du droit, il y a eu Boissonnade. Enfin, beaucoup de gens ont été happés, fascinés par le Japon. Mais nous, aujourd'hui, je pense que c'est une spécificité. Vous voyez, je ne pense pas qu'il y ait le même engouement pour, d'abord, les mangas. Donc, on l'a dit, on est le marché au monde le plus important après le Japon lui-même. Mais dans les autres pays européens, je ne pense pas qu'il y ait cet engouement, vous voyez, pour le cinéma japonais. Je crois que les Français aiment bien le cinéma étranger, les cultures étrangères. Et il y a une fascination vraiment pour le Japon, effectivement. C'est-à-dire, chez nous, les films, par exemple, iraniens, ou réussissent bien, aussi mieux qu'ailleurs, je pense. Mais le Japon, effectivement, fascine. Les Français adorent se rendre au Japon maintenant, qu'ils le peuvent plus facilement et que le Japon cherche à faire des campagnes pour attirer les touristes et se rendre un petit peu plus accessible une fois qu'on est sur place. Donc, je crois qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez japonais, d'assez français, pardon, je veux dire, dans cette attirance pour le Japon.
Peut-être parce que c'est aussi très loin et très compliqué d'y aller que d'aller au cinéma, de lire un manga ou de... c'est une manière de voyager ici. On peut citer la dernière Palme d'Or du Festival de Cannes, une histoire de famille de Kore-eda, ouais. est un film absolument superbe qui a totalement fasciné qui a rencontré son public en France.
De fait, il est absolument bouleversant. C'est vrai qu'il y a des sensibilités qui se rencontrent incontestablement côté français et japonais, ça certainement. Les Japonais aiment énormément la France aussi. Et voilà, les Français le leur rendent bien.
Alors justement, on parlait du manga à l'instant. On va passer un petit coup de fil à un grand spécialiste du manga. Bonjour Monsieur Grégoire Hello.
Bonjour.
Merci d'être sur Europe 1 ce matin en direct. Vous travaillez pour un éditeur de manga.
Voilà, tout à fait. Je suis directeur de collection aux éditions Kurokawa.
Kurokawa. Alors, expliquez-nous, dites-nous quand même, précisez, nous, on lit des mangas en France, mais au Japon, lire un manga, j'allais dire presque lire un journal chez nous, mais ça accompagne les Japonais dans leur vie quotidienne.
Oui, c'est complètement rentré dans la société, et ce, depuis les années 50-60, c'est devenu un divertissement qui est complètement normalisé, c'est-à-dire qu'il y a des mangas pour tout le monde, des enfants jusqu'aux adultes, et c'est aujourd'hui un secteur qui est très très séparé, et on a des mangas pour les gens de 40 ans, de 50 ans, pour les femmes au foyer, les femmes actives, enfin bon, c'est tout le monde a son manga.
Et le manga ramène au fait de société, au quotidien des Japonais, mais au départ, ça a été aussi une manière de revenir à la culture de base et d'exorciser un petit peu ce qui s'est passé en 45.
Le manga, c'est surtout une grande culture populaire, c'est-à-dire que quand le manga apparaît, c'est un petit peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on veut s'échapper, on veut s'amuser, forcément, on veut se reconstruire aussi un petit peu, et puis il faut divertir les enfants, leur donner des nouvelles références. Donc le manga apparaît à ce moment-là de manière extrêmement providentielle, d'autant plus que les premiers dessinateurs de manga étaient des gens qui étaient très influencés par Tintin ou Walt Disney, les comics américains qui ont été ramenés par les GI pendant la guerre.
Il y a eu une forme d'aller-retour de culture, vous diriez. Il y a donc eu le RG, la ligne claire belge qui est allée jusqu'au Japon, la culture des BD américaines qui arrive au Japon, et les Japonais l'ont intégrée dans leur propre culture.
Oui, bien sûr. De toute façon, il y avait déjà un grand échange artistique entre la France et le Japon, déjà même avant la Seconde Guerre mondiale. Hein, on a eu beaucoup d'échanges comme ça. On a eu Fujita au Japon, qui est venu en France. On a eu, au contraire, tout un tas d'impressionnistes qui ont beaucoup marqué les artistes japonais durablement. Et après, donc, avec l'arrivée du soft power américain après la Seconde Guerre mondiale, ce sont des codes. Tous les codes de narration super-héroïques, un petit peu comic strip, vont être assimilés par les Japonais et remis en avant dans la presse, par exemple, et notamment dans la presse jeunesse.
Et Grégoire Hello, c'est un pilier même de l'économie japonaise, hein, le manga, ça génère, j'ai vu, 0,5% du PIB japonais, ce qui est énorme.
C'est gigantesque, d'autant plus qu'aujourd'hui, le manga au Japon, c'est pas seulement de la bande dessinée, c'est un socle culturel à partir duquel vont être adaptés tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Japon, vous avez des films inspirés de manga, des dessins animés inspirés de manga, donc ça va donner des jouets, ça va donner des vêtements, ça va donner voilà tous les produits culturels, ce qu'on appelle les produits dérivés, viennent en grande majorité de personnages de manga. Qu'il soit classique ou moderne.
Moi qui ai trois garçons, je peux vous dire que ça fonctionne très très bien en France. Merci beaucoup Grégoire Hello, directeur éditorial, je rappelle, chez Kurokawa. Allez, juste avant de finir, un conseil de manga à nos auditeurs français qu'ils ne connaîtraient pas encore.
Alors, si vous n'avez jamais lu de manga, je vous conseille un titre assez savoureux qui s'appelle My Home Hero. C'est l'histoire d'un père de famille qui sans histoire, qui n'a rien de spécial. Et un jour, il va se rendre compte que sa fille fréquente des gens qui sont pas très respectables. Donc, il va décider de prendre les choses en main et défendre sa famille. Donc, il va tuer un yakuza. Et donc, après, il y a ce père de famille et sa femme qui n'ont rien de particulier, qui vont devoir cacher un corps à toute la mafia japonaise qui le recherche.
Très bon pitch. On achète. Merci Grégoire Hello d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1.
Merci de votre invitation.
On est ensemble pour faire le tour de la question du Japon. On va repartir à Tokyo dans un instant et vous allez vivre comme si vous y étiez la cérémonie d'abdication qui vient de se terminer.
9h-11h, François Claus sur Europe 1.
Une nouvelle ère au pays du soleil levant avec l'abdication de son empereur Akihito au profit de son fils aîné, le prince héritier Naruhito.
Une nouvelle ère, Julie, qu'on appelle l'ère de la vénérable harmonie. J'adore cette formulation. Oui, parce que le Japon vient de vivre un moment d'histoire et nous sommes heureux d'avoir en ligne Jean-Marie Bouissou. Bonjour, monsieur Bouissou.
Bonjour.
Il va peut-être y avoir un petit décalage car vous êtes à Tokyo. Vous venez d'assister, comme tout le peuple japonais, comme tous les 127 millions d'habitants japonais, à cette cérémonie totalement inédite, historique, d'abdication de l'empereur. Racontez-nous, ce fut apparemment court et sobre.
À court, oui, 10 minutes montre en main, d'ailleurs exactement comme c'était prévu, en présence de 285 invités. Apparemment, il en manquait 5 sur ce qui était prévu. Ça a été effectivement très sobre. L'empereur et son épouse étaient sur une estrade devant l'assemblée, tout en noir, tout en frac, etc. L'empereur n'était pas en costume japonais. Il était lui aussi en frac, et son épouse tout à fait en robe occidentale. On a apporté deux des trois trésors impériaux, à savoir un sabre et un bijou, mais on ne les voyait pas, ils étaient bien dans leur boîte, entourés d'étoffes, etc., etc. On les a posés à droite et à gauche de l'estrade. Après, deux chambellans ont amené les deux sceaux, le sceau officiel de l'empereur et son sceau personnel. Et le premier ministre Abe a lu... pendant environ 2 minutes.
Vous êtes obligé de parler tout doucement, monsieur Bouissou. Vous êtes encore, oui. Pas très loin de la cérémonie elle-même, non? On sent une...
Oui, c'était pas réellement émouvant. Hein. Et l'empereur a conclu par un discours dans lequel les trois mots importants, était qu'il remerciait le peuple japonais qui l'avait soutenu pendant tout le temps où il a assumé son devoir, pas sa fonction, son devoir, où il souhaitait pour la nouvelle ère la paix et la richesse au pays, et il était heureux, il y avait ce troisième mot, c'était bonheur, il était heureux de quitter sa fonction.
Alors on rappelle, M. Bouissou, que c'est une cérémonie totalement inédite, qu'il a fallu créer ce cérémoniel, qu'il a fallu même créer une loi, puisqu'aucun empereur ne pouvait abdiquer. Elle représente cette abdication pour les Japonais, un moment clé de leur histoire, et vous diriez que c'est un virage vers une forme de modernité de la maison impériale ?
Je ne dirais pas que c'est un virage vers un moment clé, parce que des empereurs qui en ont abdiqué au cours de l'histoire, il y en a eu plus de 80. Il y en a plus depuis deux siècles, mais l'abdication était un moyen très très classique de gérer les rivalités au sein de la noblesse de cour, etc. C'était presque un mode de gouvernement à certaines époques.
Oui, c'est vrai, et que je raisonnais, moi, sur l'histoire à court terme. Oui, bien sûr.
Sur l'histoire à court terme, depuis 200 ans, il n'y en a plus eu. Et ça n'était pas prévu dans la loi qui organise la fonction impériale. Il a fallu voter une loi spéciale. Les conservateurs, d'ailleurs, étaient contre l'abdication, parce que pour eux, l'empereur est un dieu, et un dieu ne peut pas abdiquer, évidemment. Les Japonais ont pris ça avec relativement de philosophie, vous savez. Ils aiment bien l'empereur. 85 ans, ils ont considéré qu'il avait bien fait son travail, que s'il demandait à abdiquer, on ne devait pas lui refuser, et que son fils est accueilli en ce moment avec, au départ, lui aussi, de la sympathie. Mais encore une fois, on ne peut pas parler de ferveur ou de choses comme ça à propos de l'empereur.
Oui, d'autant plus que cette ferveur, on la verra peut-être un petit peu plus au moment où le nouvel empereur prendra son nouvel habit. Quels sont les principaux défis, j'allais dire du jeune, il a 60 ans, du nouvel empereur, Jean-Marie Bouissou?
Bien, selon les cas, aucun, s'il veut simplement s'en tenir à la fonction telle qu'elle est, c'est-à-dire un symbole de l'État dont le rôle principal est de réconforter les Japonais dans les moments qui ne manquent hélas pas de catastrophes naturelles, etc., de montrer au peuple qu'il y a au sommet, au-dessus en fait de la vie politique, une présence qui est une présence consolatrice, une présence réconfortante, une présence qui montre que malgré tout ce qui peut arriver, la nation continue. S'il veut aller au-delà, c'est-à-dire s'il passe pour relativement ouvert à l'international, en particulier parce qu'il a passé deux années à l'université d'Oxford, il passe pour quelqu'un qui a du caractère, parce qu'il a fait la cour pendant 7 ans à la femme qu'il a fini par épouser, qui était impératrice. Oui. Donc, il passe pour quelqu'un qui a du caractère. Cela dit, il faut bien voir qu'au Japon, l'empereur, tout est balisé pour lui. Il n'a aucune liberté de parole.
Oui, oui, bien sûr. On l'évoquait au début de l'émission. Oui. Même si, par un certain nombre de gestes, il peut faire évoluer oui. les choses. Merci beaucoup, Jean-Marie Bouissou. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à Sciences Po. D'être intervenu en direct ce matin sur Europe 1. On aurait aimé vous entendre un petit peu plus longtemps, mais on a des contraintes, malheureusement, ici du direct. Merci.
Je vous en prie.
Merci à vous encore. Un petit mot, Guilbourg de la Motte. Il n'a pas de fils. Hein, il n'a pas de fils.
Non,
donc
non.
Le prochain empereur sera son frère cadet.
Sera le neveu. Oui, enfin, a priori, oui, ça peut être son frère. Sinon, ce sera le fils du frère, son neveu. Voilà. Et après, effectivement, l'interrogation en effet subsiste, est entière. Alors, en 2006, il avait été question de réformer, de réviser la loi sur la maison impériale pour permettre la succession des femmes au trône. Le débat a été interrompu par la naissance
comme par hasard, c'est ça. Et on verra, ce sera une des questions qui va se poser. Bon, allez, il y a une génération encore pour en débattre.
Voilà.
Ça devrait laisser le temps à la maison impériale japonaise d'évoluer. Allez, une courte pause et puis on va élargir à l'idée de culture encore ce Japon. On aurait aimé y voyager encore un peu plus longtemps. Mais on a encore une étape, à tout de suite.
Le tour de la question sur le Japon, un pays pétri de paradoxes entre tradition et modernité, rupture et continuité. Et les défis pour le nouvel empereur sont multiples.
On pourrait ajouter, Julie, on l'évoquait à l'instant, ouverture vers le monde et fermeture sur l'archipel. Il faut quand même rappeler que le Japon, c'est plus de 8000 îles et qu'il y a 127 millions d'habitants. On évoquait le cinéma, on évoquait les mangas, on évoquait la littérature qui nous fascine. On aurait pu parler de l'architecture aussi, puisqu'il y a tous les étudiants en architecture ont, il y a le mythe de Monsieur Tande.
Ando
qui est un architecte de 77 ans et qui a fait rentrer le Japon dans ce qu'on a vécu un petit peu là dans la cérémonie, à la fois cette sobriété et aussi cette modernité dans les bâtiments japonais de verre, de bois. Mais il y a aussi cette fameuse gastronomie, le sushi a envahi le monde. Alors il faut bien préciser une chose, Madame de la Motte, le sushi certes est japonais, mais c'est pas ce qu'on mange tous les jours au Japon.
Ah ben les Japonais mangent bien d'autres choses que des sushis, ça c'est vrai, bon, et ou même des sashimi, c'est-à-dire le bol de riz est séparé, puis c'est pas tout à fait le même riz. On mange en effet toutes sortes de choses. Alors le sushi, c'était un peu l'équivalent du sandwich, hein, si on veut. C'était le repas facile sur le pouce. Et puis c'était au bord de la mer aussi. Il fallait du poisson frais. Donc ça, c'était avant. Et aujourd'hui, il y a les sushis rapides et peu chers et pas extraordinaires. Et puis il y a la gastronomie autour du sushi qui est très particulière. Et puis sinon, c'est vrai que les Japonais mangent beaucoup de choses. Enfin, il est vrai qu'ils consomment quand même énormément de poissons.
Ils mangent beaucoup de poissons. Allez, donnez-nous un plat japonais que vous aimez beaucoup et qui va au-delà justement de cette gastronomie qu'on limite au sushi, en précisant qu'en France, c'est très souvent des Chinois qui font des sushis et pas des vrais Japonais, même s'il y a des vraies adresses japonaises à Paris.
Absolument, je vous remercie de le préciser, c'est tout à fait exact. Bah, écoutez, la cuisine japonaise, c'est toute une gastronomie en fait, qui est beaucoup plus raffinée. Alors il y a toujours en fait quelque chose qui va être bouilli, quelque chose qui va être grillé, quelque chose qui va être du sashimi ou du sushi qui feront partie du menu. Un bol de riz à un moment donné, s'il y a du sashimi, il y aura un bol de riz à un moment donné séparé, de la soupe, et puis parfois il y a quelque chose qui va être un petit morceau de fruit ou quelque chose comme ça en dessert. Donc vous voyez, c'est organisé de cette manière, très, très, assez codifié, hein, comme le reste. Et puis c'est en effet toute une diversité de saveurs.
Une diversité de saveurs, et quand on va dans un vrai restaurant japonais, on la découvre. Un petit mot sur le saké également. Le verre de saké, c'est un grand rituel également.
C'est vrai. Alors les Japonais adorent la bière aussi, hein. Donc au quotidien, quand on va prendre
des bières,
d'ailleurs,
les bières japonaises,
voilà. Et en général, on commence le dîner par une bière, et puis à un moment donné, le saké arrive. Alors on peut le prendre chaud, tiède, un petit peu, ou frais. Et puis il y a celui qui est plus sucré, plus doux, et celui qui est plus karakochi, c'est-à-dire moins sucré, un peu comme le cidre, si vous voulez, brut. Et puis heureusement, le saké, grâce aux accords UE Japon, l'accord de partenariat économique, devrait devenir moins cher en France.
Et j'oubliais, et on me le souffle dans le casque, je remercie au passage Manuel Calma, Naïma Benchemann et Charlotte Arrigoni avec qui je travaille sur cette émission, c'est un sport collectif, la radio, me souffle le thé bien sûr, le thé qui confère à ces paysages japonais une beauté singulière. On a l'impression qu'il y a dans la nature japonaise quelqu'un qui est passé avec un ciseau et qui est venu tailler les haies quasiment tellement c'est harmonieux, travaillé.
Absolument.
Le thé japonais c'est plus qu'un rituel, c'est un mode de vie.
Absolument, c'est... alors il y a le thé au quotidien qui est le thé qui a une saveur très différente de celui qu'on trouve ici là, hein. C'est pas le thé vert de Starbucks, c'est un thé vert effectivement qui a une saveur qui doit pas être trop chauffée, l'eau ne doit pas être trop chaude quand on la verse sur le thé. Et donc il y a toute une palette de saveurs là aussi en fonction du thé, s'il est plus ou moins jeune, de sa région, etc. Et puis ensuite il peut être aussi grillé, enfin fumé, disons. Il y a toutes sortes de manières de le préparer. Et puis après, il y a la cérémonie du thé, où là, c'est de la poudre de thé vert extrêmement forte, qui est bu d'une certaine manière, hein, en trois fois. Il faut faire un petit bruit à la fin. Bon, si on est vraiment dans la cérémonie elle-même, il y a toutes sortes d'ustensiles qui sont utilisés, toute une codification de la manière dont on tient la tasse, etc., le bol. Et puis, il y a une petite bouchée de quelque chose d'un petit peu sucré pour atténuer l'amertume. Et c'est délicieux. Et en principe, c'est pas trop amer non plus. C'est très, très bon.
Alors, si vous n'êtes pas sur Europe1.fr et que vous ne le suivez pas sur l'écran, on vivait avec Guilbert de la Motte les petits gestes du rituel. Et on le voit très bien. Ma dernière question sera, et elle concerne finalement peut-être Guilbert de la Motte, le monde entier. Les Japonais ont un rapport à la ville extrêmement particulier. Hein. Tokyo, c'est aujourd'hui, c'est combien ? C'est une agglomération de...
On 25 connaît, millions d'habitants.
Quasiment, enfin. Oui, j'allais dire 30 millions. On est à 25 millions d'habitants. Et en même temps, c'est un pays qui a un rapport à la nature extrêmement fort. Urbain d'un côté et totalement autour de la nature de l'autre. Est-ce que cet équilibre-là, ils arrivent à le maintenir aujourd'hui ?
Alors, si vous voulez, c'est un équilibre. La relation à la nature est un petit peu particulière. Hein. Si vous voulez, quand on voit le bonsaï, vous voyez, c'est une vision de la nature particulière. C'est-à-dire, c'est la nature comme on la veut. Hein. C'est la nature façonnée par l'homme, quand même. Et c'est plutôt ça, la constante. C'est-à-dire qu'on aime beaucoup les paysages naturels, mais en même temps, on en a saccagé un grand nombre. Hein. Faut bien reconnaître pour les besoins de la modernisation, les besoins de... Voilà. Mais il y a quand même un grand plaisir à observer la nature, c'est vrai. Mais souvent, encore une fois, dans les jardins japonais, vous voyez, la nature est complètement façonné. Donc c'est plutôt une représentation de la nature qu'on admire. C'est ça, c'est ce qui fait de ces jardins une forme d'art d'ailleurs. Hein. Mais c'est pas, vous voyez, le jardin à l'anglaise, c'est une représentation plus naturelle de la nature, disons. Le jardin à la japonaise, c'est vraiment comment l'homme imprime sa marque sur la nature.
On assume la main de l'homme sur la nature, mais c'est une manière, et ça permettra de conclure, de vivre en harmonie avec cette nature, en tout cas de la symboliser, car nous entrons, Julie, dans l'ère de l'harmonie au Japon. Voilà, on a tenté de faire ce voyage avec vous. Merci Guilbourg de la Motte de nous avoir fait voyager. Je remercie Jean-Marie Bouissou qui était avec nous au téléphone à Tokyo et Grégoire Hello, le directeur éditorial de Manga, qui nous ont accompagnés dans ce voyage, ce tour d'un archipel qui nous fascine toujours autant à l'occasion de cette cérémonie d'abdication de l'empereur. Merci aux auditeurs qui nous ont suivis, qui nous ont rappelés. On se retrouve demain. Non, pas vous, Julie.
Non, hein, je vais prendre les trois jours. Non.
Un peu moins loin.
Ah, de l'autre côté.
De l'autre côté.
De l'autre côté de...
Bon congé, Julie. Et moi, pour ma part, je vous retrouve demain.
Ok, c'était François Claus. Et moi, je reviens lundi. C'était le tour de la question avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour gagner du temps. Plus besoin de se déplacer, imprimez vos timbres depuis votre bureau.